Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs. Sébastien, vous êtes entouré des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, Julie Graziani, éditorialiste à l'Incorrect, Catherine Ney et Mickaël Darmon. Et toutes vos questions en direct, n'hésitez pas, c'est au 39-21.
Et on va longuement revenir ensemble sur ce plan annoncé par le gouvernement pour la Seine-Saint-Denis. Vous êtes évidemment les bienvenus pour nous joindre au 39-21. Réagir si vous habitez la Seine-Saint-Denis, si vous y avez travaillé, si vous y travaillez aujourd'hui, venez témoigner. Six ministres ont donc fait le déplacement, 23 mesures annoncé. Peut-être qu'on peut commencer par la même question que celle que j'ai posée à Gilles Poux tout à l'heure. Est-ce que ce plan est différent des autres? Est-ce que c'était une journée particulière en Seine-Saint-Denis aujourd'hui, selon vous? Catherine. Mayer,
Sébastien, vous hésitiez tous les deux. Non, Sébastien, je trouve que vous posez pile la bonne question parce que je me suis dit la même chose. En fait, il n'y a pas de changement de paradigme dans ce plan qui n'est, on a l'impression, qu'une énième redite de tous ces plans, toutes ces aides qui sont mises en place depuis les années 90 et qui reposent toutes sur le même postulat qu'il y a des inégalités en Seine-Saint-Denis. Bon, ça, on s'en était rendu compte. Il y a de la pauvreté, qu'il appartient à l'État de réduire ces inégalités à coup d'argent public et d'efforts massifs d'investissement faits dans ce qu'il est convenu d'appeler les quartiers. Bon. Et en fait, ça va complètement à rebours de l'esprit du rapport parlementaire qui a été rendu il y a un an et demi et auquel ces propositions sont censées répondre.
Vous parlez de faillite de la République et faillite de l'État en Seine-Saint-Denis,
oui.
Ce rapport.
Le rapport a ce titre qui est très sévère. Mais quand on le lit, en fait, il donne un peu le sentiment qu'il faudrait repenser le logiciel et que justement l'État devrait davantage lâcher prise et faire plus confiance aux gens sur place pour se débrouiller. Et il cite un certain nombre d'exemples d'initiatives locales qui ont marché et qui étaient portées par des gens en situation vraiment d'autonomie, que ce soit une directrice de prison, il y a eu une petite expérience très intéressante sur les détenus.
Alors peut-être qu'on peut venir aux solutions après, restons d'abord sur les...
Le paradigme, c'était pas celui-là.
Restons sur les mesures du jour. Alors c'est pas du tout ce que disait le maire de la Courneuve, le maire communiste Gilles Poux à l'instant, qui disait, pour le coup, là il y a quelque chose de différent dans ce qu'a dit le Premier ministre. Qu'est-ce que vous en pensez, Catherine Ney?
Je veux dire, c'est quand même... Il y a un effort qui veut être visible, il y a un gros effort de communication, parce qu'il y a six ministres qui sont allés en Seine-Saint-Denis. Il y a quand même des propositions, notamment la mesure phare, c'est cette prime de fidélisation qu'on va donner aux agents de l'État qui veulent bien continuer à exercer leur métier en
10 000 euros au bout de 5 ans.
10 000 euros, et ça vise en particulier dans les collèges de Seine-Saint-Denis où 50% des enseignants changent tous les ans. Donc dans des établissements pareils, il ne peut pas y avoir de suivi. Des élèves. Et c'est vrai que ça ne fait pas plaisir à M. Blanquer, mais c'est vrai que en Seine-Saint-Denis, on est incapable d'évaluer le niveau des élèves. Voilà, parce que les professeurs changent tout le temps. Donc, et quand il dit, le Premier ministre parle des agents de l'État, sans préciser d'ailleurs si c'est les enseignants ou les autres, est-ce qu'il y met aussi les agents hospitaliers, qui, eux, ne demandent que ça, d'avoir une prime.
Fonctionnaires de terrain, c'est le terme qui a été utilisé.
Oui, mais voilà, c'est à la fois vaste et combien ça va coûter, on ne sait pas. C'est pas encore évalué.
Et alors, l'autre chose, c'est que ça ne s'appliquera que dans 5 ans. Et donc, on peut se poser la question de l'effet immédiat.
Il faut être resté 5 ans pour mériter la prime. Voilà, c'est ça.
Et ça ne s'appliquera qu'à ceux qui arriveront là, maintenant.
Oui, c'est donc l'effet, pour rebondir ce que vient de dire Catherine, ça, c'est la partie, je dirais, la plus communication politique gouvernementale, avec l'effet de masse de tous ces ministres qui viennent sur le terrain ensemble, qui montrent qu'il y a une cohésion a priori gouvernementale pour s'intéresser à un terrain. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, la population cible de ces mesures sont les agents de l'État, les fonctionnaires, où on vient, au fond, on vient leur dire « on sait que le terrain est très difficile, mais on voudrait vous inciter à y rester, mais on ne voit pas de plan qui vient régler le problème sur le fond. On n'est pas, il n'y a pas de grandes déclarations de guerre au fond au trafic de drogue qui existe. Il n'y a pas de déclaration de guerre à la délinquance qui existe. C'est vrai que le rapport parlementaire qui parlait de la faillite de la République, un rapport extrêmement impressionnant effectivement, chiffrait à plusieurs centaines de millions d'euros par jour les chiffres d'affaires liés donc à l'économie parallèle, la drogue et autres. Donc de ce point de vue-là, c'est assez étonnant parce que on vient au fond dire aux agents de l'État, on va tout faire pour que vous soyez fidèles, faites de ce territoire un territoire attractif, mais on ne va pas pour autant, on n'a pas déclaré pour autant la guerre au problème qui, crée la pauvreté ou crée les situations d'inégalité.
Il y avait ces préconisations aussi dans le rapport parlementaire dont on parlait sur les ressources humaines, effectivement, des services publics en Seine-Saint-Denis. On continue d'en parler dans quelques secondes. On sera également avec Mathieu et on verra ce qu'il en pense. Il est avec nous au 39-21.
Vous pouvez également réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. On lit vos messages, vos questions, vos réactions. Vous écoutez votre grand journal du soir jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs, entouré des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, Julie Graziani, éditorialiste à l'Incorrect, Catherine Ney et Mickaël Darmon, et toutes vos réactions sur Twitter, hashtag Europe 1 et au 39-21.
Pour évoquer ce plan annoncé par le gouvernement aujourd'hui, plan pour la Seine-Saint-Denis, on est en ligne avec Mathieu qui a composé le 39-21. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Sébastien, bonsoir les grandes voix.
Merci. Bonsoir Mathieu.
Merci de venir échanger avec nous. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ces mesures qu'on évoque ce soir ?
Au début, je me réjouissais qu'enfin ils s'attaquent à des sujets qui, depuis 30 ou 40 ans, sont des boulets que chaque gouvernement traîne derrière lui. Il faut regarder le budget des différentes politiques de la ville. L'argent qu'on a dépensé depuis 30 ou 40 ans, c'est en milliards d'euros, Sébastien, qu'on a dépensé de l'argent pour un résultat, je dirais, en dessous de zéro. Catastrophique. Donc moi, quand j'ai vu que finalement, la seule chose, c'est vrai, c'est un peu une mesure comme, mais c'est vrai, celle dont vous parlez ce soir, les 10 000 euros de prime pour dire aux gens, c'est très dur de travailler en Seine-Saint-Denis, donc on va vous faire une sorte de compensation de 10 000 euros, puisque nous, en tant que gouvernement, on n'arrive pas à faire régner l'ordre, à faire régner la paix sociale, à que le communautarisme cesse, afin que l'islamisation soit stoppée, afin que la délinquance se réduise. Moi, c'est ça que j'attendais qu'ils prennent comme décision. Alors, ils disent des renforts de police. Ça veut dire quoi, des renforts de police ? Je sais que le problème est très important, puisque ça fait 40 ans que ce problème est évoqué, mais jamais pris à bras
le corps. Je lis sur votre fiche que vous travaillez en Seine-Saint-Denis. Vous connaissez bien ce département, vous y travaillez.
Mais oui, c'est un cauchemar. Franchement, j'ai la chance de ne pas y vivre. Et j'ai malheureusement la malchance de devoir y travailler. Et je peux vous dire que ce n'est pas de gaieté de cœur, parce qu'il y a quand même beaucoup de délinquance, beaucoup de trafic. Et je trouve que les lois républicaines ne s'appliquent pas en Seine-Saint-Denis. Donc ça fait partie de ces territoires perdus que je souhaiterais que le gouvernement puisse reconquérir.
Mais manque d'accent sur la sécurité. On entend ce que vous dites, Mathieu. Catherine, et vous répond.
Oui, c'est vrai. Pourquoi ? On se pose une question. Pourquoi l'État ne fonctionne pas en Seine-Saint-Denis ? Mais je crois que souvent, c'est parce que l'État ne sait pas comment faire. Parce qu'il y a depuis 40 ans des problèmes qui sont d'abord très nouveaux. D'abord en Seine-Saint-Denis, et là, l'INSEE ne veut pas l'admettre, mais à 200 000 habitants près, on ne sait pas combien il y a de gens en Seine-Saint-Denis qui vivent en Seine-Saint-Denis. Voilà, des gens qui profitent des cartes de santé des uns et des autres, qui squattent les appartements des uns et des autres. Enfin, on ne sait pas. Donc, c'est très difficile d'évaluer.
On revient sur l'aspect « la République ne s'applique pas de la même
mais
façon ».
Mais parce qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. C'est ça le problème. Mais encore faut-il poser le problème. Et ça, il faut le poser. La deuxième chose, c'est l'explosion de l'économie souterraine. Alors là, ça, alors la drogue, mais pas que la drogue, quoi. Il y a une économie souterraine où tout se passe en billets. Hein. Bon, et ça aussi, comment on fait ? On n'en voit pas la Cour des comptes, on n'en voit pas. Comment on maîtrise ça ? Et la troisième chose, c'est maintenant, tous les policiers disent, c'est la violence des mineurs qui est absolument terrible. Et ça, déjà, Nicolas Sarkozy en disait sur les mineurs, il disait parce que les mineurs aujourd'hui, les mineurs notamment qui viennent d'Afrique et tout ça, ils mesurent 1m90 devant des flics qui ont 20 cm de moins qu'eux. Et il y a des confrontations comme ça qui sont physiques, qui sont quand même très difficiles.
Et alors, encore plus de policiers, c'est ça qu'il fallait, Julie Graziani.
Mais
on
n'a pas les chiffres.
Il y a des chiffres, hein, 50 policiers supplémentaires dans deux quartiers, Saint-Ouen-Courneuve, et d'ici à 2021, 100 postes d'officiers de police judiciaire déployés dans le département avec des greffiers et des magistrats pour le tribunal.
Qui y ait davantage de moyens mis sur le régalien, tant mieux. Mais quand on parle de 50 ou 200 postes, c'est à la marge au regard d'une population qui fait 1,4 million ou 1,6 million, justement plus ou moins ces 100 à 400 000 personnes qu'on ne parvient pas à estimer. Le rapport a des mots très durs sur l'UNSEE, justement, Catherine, vous avez raison là-dessus. Mais foncièrement, ce rapport a des propositions très innovantes qui sont un peu de nature peut-être à nous permettre de trouver des solutions et qui, là, ne sont pas du tout relayées dans l'action gouvernementale. Le rapport dit pourquoi ne pas faire un registre des populations. Ça, c'est intéressant.
Comment recenser des gens et où les trouver
L'idée du rapport, c'est de dire en fait tous ceux à un moment donné qui seraient recensés comme ayant accès à une aide quelconque, donc y compris les étrangers en situation irrégulière, seraient notés dans ce registre de population. Et là où le rapport va assez loin même, c'est qu'il propose des statistiques ethniques et religieuses. Mais là, attention, parce qu'en fait, ça va mettre un peu...
Débat.
Ce qui m'a amusé là-dedans, c'est qu'en fait, je me suis dit, ça, voilà, c'est la mesure mesure qui va mettre tout le monde contre elle. Une partie de la droite ne voudra pas de ce registre de population parce qu'elle y verra la régularisation a priori des clandestins, et une partie de la gauche n'en voudra pas davantage parce qu'elle y verra un fichage ethnique.
On sait combien les statistiques ethniques, Michaël Darmon, sont un tabou total en France.
C'est encore absolument effectivement exclusif. Même si d'ailleurs des chercheurs comme...
Mais l'idée, l'idée des mesures d'aujourd'hui, c'était justement de ne pas mettre le feu quand même.
Justement, c'est pas mettre le feu. D'autant plus qu'on peut aussi se poser la question pourquoi on est à l'orée 2020, pourquoi le gouvernement décide effectivement de mettre le paquet, on va dire, sur la Seine-Saint-Denis. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce territoire est aussi destiné à devenir une vitrine mondiale de la France. En 2024, on peut dire que les JO qui sont organisés à Paris 2024 sont principalement organisé sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Donc il faut également être capable de pouvoir montrer un territoire organisé, un territoire qui peut être un peu plus présentable, on va dire, aux yeux du monde et aux yeux des milliers, des millions de personnes qui vont regarder et des gens qui vont venir sur ce territoire. Depuis quelque temps, c'est un territoire sur lequel on a fait venir beaucoup de start-up. C'est un lieu également, un département où toutes les fermes de cloud, de données numériques sont entreposées. Les sièges de grandes entreprises sont là.
Le paradoxe
de la Seine-Saint-Denis est un territoire en pleine mutation, alors que des problèmes de fond ne sont pas encore réglés.
On poursuit cette discussion.
Mais parce que faut de les évaluer.
Quelques secondes avec vous, Catherine, et avec les grandes voix.
Il parle aussi en elle. Et vous pouvez intervenir, n'hésitez pas, pour interpeller les grandes voix. C'est au 39-21 que ça se passe. Et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe avec Sébastien Krebs, entouré des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, Julie Graziani, éditorialiste à l'Incorrect, Catherine Ney et Michaël Darmon. Et toutes vos réactions en direct, évidemment. Ça se passe au 39-21 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1, Sébastien. Et
Kevin a composé le 39-21 pour venir débattre avec les grandes voix. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Sébastien, bonsoir les grandes voix.
Bonsoir. Merci d'être avec nous. Comment vous réagissez ? Vous avez vécu en Seine-Saint-Denis, c'est ça ?
Alors j'y ai vécu très peu de temps, j'y ai travaillé 11 ans par contre. Moi je suis fonctionnaire de police et j'y ai travaillé pendant 11 ans. J'en suis parti il y a 2 ans pour rejoindre la province. Et quand j'entends aujourd'hui le gouvernement qui propose en guise de solution la somme de 10 000 euros pour rester 5 ans de plus, etc., ça me fait doucement sourire parce que ça ne solutionne strictement rien. Encore une fois, on achète le temps des gens, on achète le travail des gens, mais on ne leur permet pas, et je parlerai pour mon corps de métier, on ne leur permet pas de faire ce travail correctement.
Vous les auriez pris, vous, les 10 000 euros pour rester un peu plus longtemps ?
Absolument pas.
Non.
Absolument pas. L'argent ne fait pas tout. Et quand on fait ce métier-là, le métier de policier, je vais parler vraiment que pour ce métier-là, c'est un métier à part. On ne peut pas acheter ce métier-là. Ce métier-là, on le fait par envie ou on ne le fait pas. 10 000 euros, c'est sûr, c'est une somme aujourd'hui. On a plein de gens qui aimeraient avoir cette somme-là. Mais
alors aujourd'hui, on parle aussi de rénovation de commissariat et de quelques effectifs supplémentaires. Mais ce n'est pas suffisant pour vous ? Qu'est-ce qu'il faudrait ?
Vous étiez en train d'en parler il n'y a pas très longtemps. Vous parliez de Saint-Ouen, la Courneuve notamment. C'est des endroits que je connais très très bien puisque j'y ai travaillé pendant 11 ans, encore une fois. Vous parliez d'une centaine d'officiers de police judiciaire également. Je dirais, il y a un moment où il faut prendre le problème de façon un petit peu plus large. Le spectre policier ne peut pas suffire. Mettre des effectifs, ça ne suffit pas si on ne permet pas à ces effectifs de travailler correctement. Si on passe son temps à dénigrer leur travail, à ne pas leur permettre d'être en sécurité. C'est-à-dire, quand on voit les guet-apens qu'il y a eu en ce moment, dernièrement sur les Yvelines, c'est des événements qui sont quasi quotidiens sur la Seine-Saint-Denis.
On en a parlé il y a quelques jours ici même. Merci beaucoup Laurent pour votre témoignage. J'en profite aussi pour remercier Mathieu qui nous a rejoint également tout à l'heure. Comment vous réagissez les grandes voix en entendant ce témoignage ? Finalement, est-ce qu'il y a une solution miracle ? Il n'y a pas de solution miracle. Il faut des moyens, il faut beaucoup de moyens et ça, l'État ne les a pas.
Vous savez, quand il y a une volonté politique, il y a une capacité de le faire. Les 6 ministres qui sont venus, ils sont venus pour faire un effet de masse, mais derrière, on ne sent pas une réorganisation totale des moyens à l'intérieur du budget, dans l'éducation nationale, dans la culture, dans le social. Vous voyez, quand on a pris l'exemple, d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure Nicolas Sarkozy, en début de du quinquennat, dernier quinquennat Chirac, en 2002, il avait tenté de faire une grande loi qui ressemblait, pour faire vite, à la méthode qu'avait utilisée Giuliani à New York à l'époque, en mêlant beaucoup d'actions gouvernementales pour pouvoir régler les problèmes des quartiers. Il a été totalement retoqué parce que toutes les administrations ont empêché de travailler de manière décloisonnée. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une dimension qui est portée, mais qu'elle ne règle pas l'ensemble du problème. Et tous les échos que l'on a montrent bien qu'on est à côté de la plaque.
Julie Graziani et Catherine, un dernier mot chacune.
Je trouve que Laurent a raison parce que travailler avec la boule au ventre et en se faisant insulter régulièrement, ça vaut certainement pas 10 000 euros au bout de 5 ans. Donc c'est pas un sujet. Je me demande au fond s'il n'y a pas juste rien à faire et s'il ne faut pas en fait se résigner à une situation. Est-ce qu'on ne veut pas le beurre et l'argent du beurre dans notre pays ? On veut un pays qui soit ouvert aux flux migratoires et depuis longtemps. Le problème de la Seine-Saint-Denis, c'est ni le bassin d'emploi, on l'a dit, il est riche, ni les infrastructures, elles sont excellentes, ni la proximité avec la région parisienne. C'est
les infrastructures
ne
sont pas excellentes partout. On sait qu'il y a des quartiers complètement enclavés.
Je me réfère au rapport. Il y aura sûrement des taches de léopard ici et là. Mais ce que dit le rapport, encore une fois, je tiens à le dire, c'est que 44% des enfants ont des parents immigrés et 40% des enfants, c'est le double de la moyenne nationale, ont des parents sans diplôme. Donc il y a une fragilité culturelle en Seine-Saint-Denis qui est évidemment liée à une forte concentration de population immigrée et qui génère naturellement de l'inégalité, de la pauvreté, de l'insécurité et en bout de chaîne de la délinquance. Parce qu'un parcours d'intégration réussi, c'est sur une, deux, voire trois générations. Et en fait, les gens qui réussissent ce parcours quittent la Seine-Saint-Denis, qui reçoit des flux entrants de nouveaux arrivants précarisés. Donc il ne peut pas en être autrement. Ce département restera en proie à des problèmes sociaux, culturels, d'argent et de délinquance. Comment voulez-vous faire autrement ?
La réponse de Catherine, on en revient à ce débat sur l'intégration.
Non, mais c'est de toute façon, pour bâtir des solutions, il faut d'abord faire bien évaluer les problèmes. Une fois qu'on les a évalués, c'est déjà, on y voit un peu plus clair. Pour l'instant, c'est un peu des grosses rustines, quoi, pour un problème qui risque d'être pérenne, mais qui se pose aujourd'hui dans beaucoup de métropoles à l'étranger. C'est ce même problème qui est un peu insoluble, parce que avec l'arrivée de populations qui ne sont pas intégrées, qui n'ont pas encore, qui sont quelquefois des illégaux, des immigrés illégaux. Et quand le président dit dans Valeurs Actuelles que tous les gens qui n'ont pas accès au territoire doivent être expulsés, ben on dit chiche.
Allez les trouver.
Ouais. En tout cas, ce qui est intéressant quand même dans cette démarche, on verra bien, elle est incomplète, on a bien compris, ça c'est vrai. Mais ça veut dire aussi, le message principal, c'est aussi le retour de l'État dans ce territoire-là. Et c'est également une évolution d'un Macron à mi-mandat, qui au début de son mandat avait été plutôt une logique plus libérale, en disant on va laisser les initiatives se faire. Et là, il revient sur une démarche beaucoup plus colbertiste, centralisatrice, parce qu'effectivement, il a compris que c'est les leviers de l'État qui peuvent éventuellement faire quelque chose.
Et le débat continue.
François Cornu-Gentil, qui est l'auteur du rapport, dit qu'il va, dans quelques mois, puisque c'est la... Il y a un comité d'évaluation de contrôle des parlementaires. Il fera un rapport de suivi pour savoir à quoi ont abouti ces nouvelles propositions.
Et bien voilà, ce sera l'occasion d'en reparler ensemble. Merci les grandes voix, Catherine et Mickaël Darmon, Julie Graziani du magazine L'Incorrect. Bonne soirée à vous, merci. Europe 1.